Charlie Hebdo qui est rescapé, Driss je crois, ou Riss, qui racontait comment il a échappé. Il était dans la même conférence éditoriale que les autres, et quand il a vu les hommes arriver en noir avec leur cagoule, il a plongé par terre, et donc il a été épargné de la vague de Kalachnikov. Et après, il les a entendus marcher, et il y en a un qui a quand même tiré sur lui, et c'est comme ça qu'il a eu une balle dans l'épaule. Et il était très ému en racontant comment il a échappé à une mort. Tout le monde est mort dans cette pièce, sauf lui, quoi. Et le journaliste lui a dit « À quoi devez-vous d'être en vie ?» Ou « À qui devez-vous » Il a dit ces deux mots, « À quoi ou à qui devez-vous d'être en vie ?» Et cet homme qui est athée, hein, militant, justement, il a dit « Oh, je sais pas, c'est la chance, le hasard. » Et je me suis dit, c'est l'occasion de sa vie de dire « Il y a peut-être quelqu'un qui m'a sauvé, là. » Et qui m'a laissé une chance de vivre encore. Mais non, c'est le hasard et la chance. Et je dis, quelle tristesse d'être aveuglé, hein, comme ça, de s'endurcir, alors qu'il aurait pu remercier Dieu. Alors nous allons continuer dans le Notre Père, Matthieu 6. Et nous arrivons aux versets 11 et 12. Évangile de Matthieu, chapitre 6. Versets 11 et 12. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Je vous rappelle que cette prière est un modèle de prière que Jésus a donné pour nous apprendre à prier, pour nous donner des grands principes de la prière. On voit dans cette prière que Dieu doit être au centre, hein. C'est notre Père, c'est son règne, sa volonté qui prime, là, qui sont mis en premier. Et la relation avec Dieu est essentielle pour que la prière fonctionne, si on peut dire. La prière sans Dieu, sans être centré sur Dieu, sans être en relation avec Dieu, n'est plus la prière. Ça devient un monologue religieux, mais la prière, c'est ce contact vital avec notre Père. On voit qu'il y a une grande partie dédiée justement à l'adoration, à la louange, au remerciement à Dieu. Aussi, il y a ce désir, on l'a vu la semaine dernière, donc, que ton règne vienne, de voir la justice de Dieu, de voir la victoire du Seigneur. Et il y a ce souhait profond des enfants de Dieu de voir la justice, et notamment dans notre propre vie, hein, ça commence par notre propre vie, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et aujourd'hui, donc, nous arrivons à la première requête, si on peut dire, hein, de cette prière. Donne-nous notre pain. Et j'aimerais juste faire une petite aparté d'abord concernant le vouvoiement et le tutoiement. Jusqu'à Vatican II, dans l'Église catholique, on vouvoyait Dieu. Et puis Vatican II, voulant se rapprocher des frères protestants, a enlevé le vouvoiement et a mis le tutoiement. Voilà. Et avant, tout le monde priait « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne ». C'était comme ça dans les Bibles. Et puis aussi, en anglais, on a dû inventer, hein, une forme. En anglais, il n'y a pas de vouvoiement normalement, mais ils l'ont inventé pour l'occasion, bien avant la Bible, hein, mais pour l'utiliser avec Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Est-ce qu'on doit vouvoyer Dieu ou est-ce qu'on doit tutoyer Dieu dans la prière? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Alors, pourquoi on le tutoie? Parce que c'est notre papa, mais il y a des enfants qui vouvoient leurs parents. Alors, en hébreu et en grec, il n'y avait pas de vouvoiement. Mais il y avait la forme, quand même, des formes de respect. Justement, le fait, par exemple, on avait vu de dire que ton nom soit sanctifié, c'est une forme qu'il soit. On ne dit pas sanctifie ton nom, on dit que ton nom soit sanctifié. C'est une façon de dire respectueuse, de ne pas donner des ordres à Dieu. Elohim aussi, qui est un nom pluriel en hébreu, qui désigne le nom de Dieu, hein, c'est Dieu. La forme plurielle est aussi une forme d'honneur que l'on donne à Dieu. C'est aussi, bien sûr, la Trinité qui est derrière, hein. Dieu est pluriel, mais néanmoins, c'est aussi une forme de politesse, de respect envers Dieu. Oui? Oui. Ah bon? D'accord. Avec le thou et le thee au lieu du you. Voilà. Voilà. Donc, dans le grec et l'hébreu, il n'y avait pas de vouvoiement. Donc, dans le grec, là, c'est tu, hein. Mais, en fait, ni l'un et l'autre ne sont pas mauvais quelque part. Le vouvoiement, c'est une forme pour de dire à Dieu, tu n'es pas mon copain, tu n'es pas mon pote, hein. Tu es mon père, c'est vrai. Il y a une relation proche, mais en même temps, je reconnais que je suis une créature et tu es le créateur. Dans le tutoiement, il y a aussi, par contre, cette intimité avec son papa, comme disait notre sœur. Et parfois, le vouvoiement, c'était une façon de dire Dieu est lointain, je ne le connais pas, alors je le vouvoie pour ne pas lui déplaire. Et donc, les deux ont leur bon côté, les deux ont leur mauvais côté. Alors, nous avons l'habitude hein, de tutoyer notre Seigneur dans la prière. Ce n'est pas mauvais du tout, hein, c'est tout à fait conforme à l'Écriture, mais il faut faire attention de ne pas devenir familier, de ne pas prendre Dieu pour mon copain ou mon distributeur de bénédictions qui doit répondre parce que je lui ai demandé. Il est le Seigneur, le Tout-Puissant. Si je devais comparaître devant son trône, est-ce que j'arriverais n'importe comment en disant, bon, et alors j'espère que tu vas m'écouter? Non. Si j'arrivais devant le trône de Dieu, quand vous voyez dans l'Apocalypse commencer le grand trône blanc, que tout le ciel et la terre s'enfuient devant sa face, ça donne de l'humilité. Et il nous faut de l'humilité dans la prière aussi, de reconnaître que nous adressons au Tout-Puissant, au Dieu créateur de l'univers, et qui s'avère notre Père. Et c'est ça qui est extraordinaire, comment le créateur de l'univers peut devenir mon Père, qui a fait de moi son enfant par sa grâce. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est tout simple comme prière, mais il y a des mots clés là, il y a le aujourd'hui et quotidien. Aujourd'hui, ben, on prie pour aujourd'hui et quotidien, on prie pour aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une répétition là, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Et c'est la prière la plus basique, la plus simple. Ceux qui mangent du riz pourraient dire donne-nous notre riz quotidien hein, en Asie. Le pain, c'est la nourriture de base à l'époque. Et c'est vraiment l'idée du corps de nourrir, de pourvoir à nos besoins. Dieu est celui qui pourvoit. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Et ce qui me frappe, je ne sais pas pour vous, dans cette prière-là, dans ce modèle, c'est c'est très court. Il ne dit pas. Donne-nous le pain que le boulanger va fabriquer ou que tu vas m'amener par la poste ou par je sais pas. C'est juste donne-nous notre pain. Et ça nous apprend quelque chose sur la prière, c'est que lorsqu'on a un besoin, il faut l'exprimer au Seigneur. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, dit le Seigneur. Et on n'a pas à lui expliquer comment il va répondre à la prière. Parce qu'on est tenté, nous, de dire, Seigneur, voilà comment tu vas devoir faire. Je t'explique. J'ai ce besoin, mais alors j'aimerais que tu fasses ci, comme ça, par là. Mais là, dans ce modèle de prière, vous avez juste, donne-nous notre pain quotidien. Et sous-entendu, mais ça nous suffit. Peu importe comment tu vas faire, Seigneur, on compte sur toi. Comme le petit oiseau compte hein, sur Dieu pour sa nourriture, ou l'animal. Les animaux en général, hein, ils comptent sur le Seigneur, ils ont une foi innée, si on peut dire, hein, une dépendance innée qui est dans leur instinct. Eh bien, nous devons apprendre ça aussi. Seigneur, j'ai un besoin, je te demande d'y répondre. Parfois, on se complique tellement la vie dans la foi et dans la prière. Simplement, Seigneur, j'ai ce besoin. Voilà, je compte sur toi. J'ai pas assez d'argent pour payer mon loyer. Seigneur, je compte sur toi. Je sais bien que tu sais que je n'ai pas assez d'argent, mais je te le demande, Seigneur, pourvois. Je n'ai plus de place dans le train. Seigneur, je compte sur toi. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je compte sur toi. C'est cette foi simple et claire et cette demande précise. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Je reviens encore sur la grammaire, je suis désolé, mais vous avez remarqué qu'il dit « donne-nous » et non pas « donne-moi ». Hein? Il dit « notre Père », pas « mon Père ». Il y a « nous » partout, là. Hein? Vous avez remarqué, c'est la première personne du pluriel. « Pardonne-nous ». Voilà. Et on ne fait pas attention à ce détail, mais pourquoi Jésus a voulu qu'on prie comme ça, qu'on dise « notre Père »,« donne-nous », »,« pardonne-nous ». Voilà, parce qu'on est un corps, on est la famille de Dieu, on est plusieurs enfants, on n'est pas tout seul. Et je crois que le Seigneur, je crois parce que c'est mon interprétation, puisque le texte ne dit pas pourquoi, hein, mais c'est que le Seigneur veut qu'on se pense comme membre de la famille de Dieu, un des membres de la famille. Seigneur, nous sommes tes enfants, donne-nous, tu es notre Père. Et ça aussi, ça peut nous aider aussi à être moins égocentrique dans la prière. Parfois, on peut être vraiment centré sur soi, narcissique même, ne penser qu'à soi, au lieu de penser, mais qu'il y a d'autres dans le monde. Et d'avoir cette attitude, voilà, nous sommes. Et c'est pour ça aussi que les prières d'église, quand on est plusieurs à prier, hein, dans la réunion de prière, sont importantes. Il faut prier chez soi. Mais c'est bien aussi d'aller à l'église prier avec les frères et sœurs, parce que Dieu bénit aussi quand on s'associe et quand on se met d'accord pour demander quelque chose en son nom. Le pain quotidien, ça vous fait penser à quelle histoire de l'Ancien Testament ? La manne, Exode chapitre 16. Lorsque Israël était en déplacement dans le désert, hein, en pèlerin et voyageur, eh bien, il devait compter sur Dieu parce que dans le désert, il n'y a pas de grand-chose à manger. Il n'y a pas d'arbres fruitiers, il y a quelques petites graines par-ci par-là, quelques animaux qui se cachent dans le sable et dans les rochers, mais ça ne va pas très loin pour nourrir des milliers de gens. Il fallait ce miracle quotidien de la manne. Mais vous rappelez les détails que Dieu avait dit, vous allez ramasser la manne tous les matins et que pour un jour. Et pour le Shabbat, ils avaient le droit à une portion double, puisque le Shabbat, il ne devait pas sortir pour travailler, donc il devait compter sur Dieu. Mais il avait dit, si quelqu'un ramasse plus pour faire des provisions, la manne va pourrir, hein, va moisir. Mais il y a un autre verset aussi dans ce passage qui dit que celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait ramassé peu avait assez. Et ça, c'est intéressant aussi, cette phrase, c'est que Dieu nous donne ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, notamment pour le pain quotidien et pour les besoins matériels. Nous sommes dans un monde très centré sur l'argent, hein, notamment en Occident, mais même partout, hein, maintenant. Même les Chinois, maintenant, sont obsédés par l'argent, la richesse. Hein. En Asie, ça y est, c'est fini, la culture orientale, philosophique et spirituelle. Maintenant, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et cette soif d'argent, d'accumuler, ça peut nous toucher, hein, et nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Et donne-nous notre pain quotidien, c'est cette paix, ce repos, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin d'avoir 5 000, 10 000 euros par mois ou je ne sais pas combien. J'ai besoin de ce dont j'ai besoin. Toi, tu sais ce dont j'ai besoin. Il y a des personnes qui vont avoir plus de besoins parce qu'ils ont une grande famille ou parce qu'ils vivent dans une ville, je pense à Paris, hein, où les loyers sont extrêmement élevés. Mais le Seigneur le sait tout ça. Il le sait. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Et ça évite toutes les convoitises, tous les désirs pernicieux de dire « Ah, il me manque ça, si j'avais ça » et se regarder par rapport aux autres. Peu importe. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Chaque jour. J'étais frappé quand on voyageait au Cameroun, dans la brousse, dans les villages de brousse. Qu'est-ce qu'on avait là ? Qu'est-ce qu'il y avait dans les maisons ? Il y avait les murs, il y avait une ou deux, un canapé en général, hein, des fauteuils, Il y avait une chambre avec un lit pour chacun. Enfin, le toilette, c'était dehors dans la brousse, hein, dans une petite case, dans un trou. Il n'y avait pas l'eau courante. Il y avait parfois l'électricité avec un groupe électrogène. Parfois, c'était la lampe à huile ou à pétrole. Et nous qui venons de Paris, au début, les premiers jours, les premières heures, je me souviens, c'était un choc culturel énorme. Hein. Mais au bout d'un moment, vous dites, mais pourquoi j'ai pas besoin de beaucoup plus finalement? Du moment que j'ai à manger une fois par jour un bon repas, même pas deux fois forcément, hein, une fois par jour un bon repas, que j'ai de quoi dormir à l'abri des moustiques et des cafards, ce qui n'était pas toujours le cas malheureusement, et que je suis dans une maison à l'abri, de quoi ai-je besoin? Si j'ai un point d'eau, si j'ai de la nourriture, voilà. Et nous, on accumule tellement de choses dans nos maisons et on ne se rend pas compte qu'il y a un excès là. Et le Seigneur nous demande d'être sobre et d'être vraiment dans cette sobriété. Donne-nous notre pain quotidien. On aura assez pour ce qu'il nous faut pour vivre sur cette terre. Bien sûr, je pense aussi avec ce pain à la parole de Jésus, Jean 6, 35, où Jésus dit: Je suis le pain de vie. Et il dit ça justement faisant allusion à la manne. Il dit: Moïse vous a donné le pain du ciel, mais moi, il dit, je suis le vrai pain du ciel. Vous savez que Jean a plusieurs je suis, où je rappelle tous les je suis que Jésus a prononcés. Il dit, je suis le vrai pain du ciel, je suis le bon berger, je suis le vrai cep, hein, etc. Je suis la porte. Et là, le vrai pain de vie. Jésus est un pain de vie dans quel sens? Bien sûr, ce n'est pas corporel, là, pour le coup, c'est spirituel. Il y a vraiment une nourriture pour l'âme auprès du Seigneur. Quand on est en relation avec le Seigneur Jésus, ça comble notre âme, nos besoins spirituels, même nos besoins moraux. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'est pas en relation avec Dieu, un chrétien qui n'a pas ces moments dans la journée où il loue le Seigneur, où il remercie Dieu, il va s'assécher, il va s'appauvrir, il va se... il n'aura pas la force spirituelle nécessaire pour la journée. C'est pour ça aussi que la manne, hein, notamment, tombait le matin. Il fallait la chercher le matin à l'aube. Et on a besoin d'aller chercher le Seigneur tous les jours. On a besoin du Seigneur tous les jours. On ne peut pas dire, voilà, j'étais au culte dimanche, on a chanté, j'ai prié, j'ai écouté la Bible, maintenant j'en ai pour une semaine. Avec ça, je peux tenir une semaine. Non, non. Demain, lundi, j'ai besoin aussi de m'approcher de Dieu. Mardi, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Mercredi. Parce que sinon, ça pourrit. Hein? C'est comme la manne. On ne peut pas compter sur les victoires passées, sur ce qu'on a fait. À chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus. Donc aujourd'hui, je dois avoir mon pain de vie, qui est la relation avec Dieu, qui est ce moment précieux avec le Seigneur. Ce qui est merveilleux, ce sont les promesses de Dieu. J'en cite une parmi d'autres, 2 Corinthiens 9, sur la provision de Dieu. 2 Corinthiens 9, c'était une exhortation liée à un don que les Corinthiens voulaient faire pour aider les Macédoniens et les habitants de Jérusalem, surtout. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà. Il y a cette promesse de Dieu qu'il pourvoira. Et regardez à nouveau le verset 8, hein. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Ça veut dire que Dieu s'engage, promet notre Père, de pourvoir à tous nos besoins, mais de nous donner plus pour quoi faire ? Pour partager avec les autres, pour toute bonne œuvre. Ce plus, ce n'est pas pour nous. Ce plus, c'est pour les autres. Et quand Dieu nous donne plus, il ne faut pas juste dire « chouette, je vais pouvoir m'acheter plus de choses ». Il faut dire « chouette, je vais pouvoir partager avec d'autres ». Mais cette promesse est extraordinaire. Il y a le tout, hein, toujours, toujours, tout, 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 toujours. Dieu insiste, là, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'on peut compter sur Dieu. Mais il y a le mot « besoin ». Quel est notre besoin véritable ? Quels sont nos besoins ? Et c'est là qu'il faut se tourner vers Dieu encore une fois. « Seigneur, je veux savoir de toi, quels sont mes besoins véritables ?» Parce que nous, on a nos idées des besoins, on a nos convoitises, nos désirs, nos souhaits, nos rêves. Mais notre vrai besoin, c'est quoi ? Parfois, on se dit « Oh, ce qu'il me faudrait, un célibataire, il va dire « Moi, ce qu'il faudrait, c'est que je sois marié. » »« Ah là là, si j'étais marié, alors ça changerait tout, ce serait merveilleux. » Et puis en fait, son besoin, c'est peut-être pas ça. Peut-être, en apparence, ça a l'air d'être ça, mais son besoin, c'est d'abord peut-être d'avoir une relation spéciale avec Dieu, que d'autres n'auront pas parce que cette personne étant célibataire, elle a plus de temps, de concentration pour passer, pour avoir une intimité avec Dieu. Ou bien, on va dire, ah ben moi, ce qu'il me faudrait, c'est plus d'argent parce que comme ça, j'ai plein de projets, je pourrais lancer tel ou tel truc. Mais peut-être c'est pas ça. Ce dont j'ai besoin peut-être d'obéir à Dieu et de donner aux autres plutôt que de faire mes propres projets. Et c'est donc important d'écouter le Seigneur et de comprendre quel est notre véritable besoin. Le deuxième verset, le verset 12 de Matthieu 6, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et là, c'est quelque chose de très important. Ici, la demande de pardon, la repentance, la confession des péchés dans la prière. C'est quelque chose parfois qu'on oublie. On arrive devant Dieu. Seigneur, oui, mais est-ce que tu as pensé d'abord à te mettre en règle avec ton Seigneur ? Est-ce que tu as pensé que tu as accumulé un certain nombre de péchés ? Tu as peut-être fait des choses que... tu t'es même pas rendu compte que c'était des péchés, et le Seigneur est arrêté par ça. Il faut d'abord se mettre en règle, il faut être justifié d'abord. Alors nous avons la promesse dans 1 Jean 1,9 qui dit hein, « Si nous confessons nos péchés, il est pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Qu'est-ce que c'est l'offense, hein, quelles sont les offenses ? C'est des offenses, c'est fort le mot, hein, offense. Offenser quelqu'un, c'est fort, c'est presque l'insulter. Hein, et comment est-ce que nous pouvons offenser Dieu ? Mais c'est lorsque nous désobéissons clairement à la parole, lorsque nous désobéissons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour nous montrer ce qu'il faut faire. Et quand on repousse ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est une offense. C'est une rébellion, c'est une désobéissance. Et le Saint-Esprit est attristé. Et nous avons besoin d'être pardonnés de ces péchés-là avant de prier. Seigneur, voilà, je ne t'ai pas écouté. Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as dit. Je ne suis pas juste dans ma vie. Seigneur, veuille me pardonner. Et là, on peut démarrer ensuite les prières. Hein. Mais l'importance de se repentir. Et un signe de repentance qui est montré ici, hein, c'est que l'on pardonne aux autres. Ce verset, parfois, m'a troublé parce que je me suis dit, mais alors si je ne pardonne pas à quelqu'un, Dieu ne me pardonnera pas mes péchés. Et c'est grave, si Dieu ne pardonne pas nos péchés, là c'est grave. Et pourtant, le Seigneur a dit, si vous confessez vos péchés, je vous les pardonnerai. Alors, est-ce que Dieu se contredit ? Est-ce qu'il y a plusieurs conditions ? Mais en fait, quand on ne pardonne pas aux autres, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment humble, on n'est pas vraiment repentant. Si, et Jésus avait raconté cette histoire en Matthieu 18, hein, des deux débiteurs, là, hein, le premier qui devait une somme pharaonique, hein, au roi. Il vient voir le roi, il dit, je ne peux pas te rembourser. Et là, il a des larmes, des larmes et des larmes, et il pleure. Mais ce sont des larmes de crocodile. Pourquoi ce sont des larmes de crocodile? Parce que 10 minutes plus tard, il rencontre son collègue qui lui doit une toute petite somme. Et avec ce collègue, il lui dit, rembourse-moi immédiatement. Et l'autre, il dit, je ne peux pas, mais c'était vraiment un détail, une petite chose. Il dit, il l'amène au tribunal pour qu'il le rembourse. Ça prouve que lorsqu'il a pleuré devant le roi, c'était hypocrite, profondément hypocrite. Tout ce qu'il voulait, c'est se tirer d'un mauvais pas. La vraie repentance, c'est pas échapper à la condamnation du péché seulement. La vraie repentance, c'est haïr le péché qu'on a commis. Je m'explique là-dessus. Parfois, ce qui nous gêne ou nous embête, c'est que on a été pris en train de pécher. Et on a une culpabilité et une condamnation pour notre péché. Et ça nous rend malheureux. On dit, oh là 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 là, je suis puni, c'est terrible. Je me sens mal, je ne suis pas bien, je sens cette culpabilité. Et puis Dieu ne me bénit pas parce que j'ai péché. Maintenant, est-ce qu'on regrette vraiment d'avoir commis ce péché ou est-ce que ce qu'on regrette, c'est de ne plus avoir la bénédiction? Et parfois, on peut être hypocrite, nous aussi, dans la prière. La vraie repentance, c'est dire, Seigneur, je t'ai offensé, je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que ce n'est pas simplement j'ai fait une erreur ou je me suis trompé, désolé, pardon. Seigneur, je t'ai offensé, j'ai offensé ta loi, ta parole, ton Saint-Esprit. On peut faire des erreurs avec les êtres humains. Et nous sommes des personnes qui font des erreurs hein, tout le temps, malheureusement, dans notre faiblesse. Mais par rapport à la loi de Dieu, le Seigneur a dit, hein, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc si on sait, parce que Dieu nous l'a dit, le Saint-Esprit nous l'a rappelé, et on ne le fait pas, on offense le Seigneur. Et là, il faut vraiment se repentir et avoir cette humilité de dire, Seigneur, je mérite ta condamnation. Mais je crois en ta grâce. Je crois en ta miséricorde qui pardonne. Mais comment est-ce qu'on est pardonné? Est-ce qu'on est pardonné juste comme ça? Non, on est pardonné grâce à Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus n'était pas mort pour nous, on ne pourrait pas être pardonné parce que Dieu devrait être juste envers nous. Il devrait nous condamner. La grâce qui est extraordinaire, c'est parce que Jésus a payé pour mes offenses, parce qu'il a été frappé pour mes péchés. Moi, je peux être pardonné. Et je peux me retrouver devant Dieu avec une conscience pure. Et il faut vraiment. Les apôtres en parlent plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Hein. Ils disent, nous nous sommes comportés avec vous avec une conscience pure. C'est important de garder sa conscience pure. Une conscience coupable, une conscience sombre, ne demande pas avec foi. Parce qu'on dit, oh Seigneur, je ne mérite pas. Mais la conscience pure, elle dit, Seigneur, je ne mérite pas, mais. Tu m'as purifié, donc tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes parce que je suis justifié, je suis pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est curieux, c'est que dans le grec utilisé par les évangélistes, les mots pardon et offense sont des mots utilisés dans le commerce. Lorsque Jésus, vous vous rappelez peut-être, a dit sa dernière phrase sur la croix, tout est accompli. En grec, c'est un seul mot. Et c'est un mot qu'on utilisait dans le commerce. C'est lié à la dette, hein? Remettre une dette. Et pardonner, là, c'est un mot qui veut dire littéralement hein, quitter, abandonner. Donc, abandonne la dette. Laisse tomber notre dette, Seigneur. Efface notre dette. C'est ça qu'il dit ici, littéralement. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a effacé notre dette. Il a tout payé, tout est accompli, ça voulait dire, tout est payé, ils ne doivent plus rien. Nous avons une immense dette hein, envers notre Dieu. Mais maintenant, comparons avec les frères et sœurs hein, ou les êtres humains. Qu'est-ce qu'ils nous doivent comparer à ça? C'est Pierre, hein, dans Matthieu 18, toujours, hein, qui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et c'est là que Jésus raconte cette histoire hein, des deux débiteurs. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Pourquoi Pierre disait ça? Parce que Pierre avait une patience assez limitée. Il était prêt à pardonner une fois, deux fois, mais la troisième fois, stop. Et il y avait des querelles entre apôtres et entre frères hein, au sein des douze. Hein, on le voit plusieurs fois, c'est mentionné. C'était à celui qui serait le plus proche de Jésus, le plus près. Oui, c'est moi qui serai premier ministre, mais non, c'est toi, c'est moi. C'est lamentable hein, d'une certaine façon, mais nous sommes comme ça aussi. Hein, et ils ont appris après la résurrection et après le baptême du Saint-Esprit, il y a eu une transformation dans le cœur de ces hommes. Mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et Jésus donne cette réponse, hein, tu pardonneras combien de fois? Non. 70 fois, 7 fois. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Jésus a donné ce chiffre. Alors, il y a effectivement 7, c'est la perfection. Et regardez avec moi dans Genèse 4. Genèse chapitre 4. Verset 23, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Voilà. Et qu'est-ce que c'était cette expression? C'était une vengeance extrême, c'est-à-dire il a été blessé, hein. Il n'a pas été tué, il a été blessé. Il dit pour ma blessure, je vais tuer quelqu'un, je vais tuer un jeune homme et je serai vengé. Alors là, c'est 77 du coup. Hein. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77. C'est vraiment une expression d'extrême. C'est quelqu'un qui est ultra violent. Vous lui faites une pichenette et il vous tue. Hein. C'est des choses malheureusement qu'on voit de nos jours de plus en plus. Hein. Je me souviens de ce jeune homme dans Paris hein, qui a voulu défendre sa petite amie à qui on volait un portable et qui s'est pris un coup de couteau et qui en est mort. Voilà, juste parce que on avait volé un portable. Et par rapport à cette violence satanique, parce que là c'est Caïn, hein, c'est la lignée de Caïn, Jésus donne l'inverse. Il dit, avec moi, c'est pas qu'on va se venger 77 fois, on va pardonner 70 fois 7 fois. 490 fois, c'est pas tellement le nombre hein, qui compte. C'est on va pardonner indéfiniment. Et c'est là où nous avons du mal. Seigneur, c'est pas possible. La personne recommence, recommence, recommence. Et c'est pour ça qu'il faut penser au pardon que Dieu nous accorde d'abord. C'est la vraie humilité. C'est ça qui nous rend humbles. Seigneur, qu'est-ce que j'avais fait contre toi? Mais j'avais offensé le Dieu saint. Je m'étais rebellé contre la loi parfaite de Dieu, contre le Créateur. Qu'est-ce que je mérite pour m'être rebellé, pour l'avoir offensé? Je mérite la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce Dieu juste et saint, au lieu de me condamner, il me fait grâce, gratuitement, par amour. Quel cadeau j'ai reçu. Vraiment, ça doit me réjouir pour toute la vie, hein, jusqu'à la fin de mes jours, je dois chanter les louanges du Seigneur. Maintenant, si un frère ou une sœur m'irrite ou me fait je sais pas, un petit truc qui est désagréable. Le Seigneur m'appelle à pardonner et à couvrir par l'amour. Hein. L'amour couvre les fautes, dit la Bible. Jésus a donné dans Matthieu 18 aussi comment régler les questions lorsqu'un frère a péché. Ce chapitre est vraiment très important, Matthieu 18, hein, sur le pardon. Il dit dans l'Église, hein, si ton frère a péché, tu dois aller lui parler. Et lui dire, voilà, tu sais, tu m'as offensé, tu m'as fait du mal. Et si le frère se repent, ben voilà, c'est fini, on pardonne. S'il ne se repent pas, on va appeler deux ou trois témoins et on va le redire. Et s'il ne se repent pas, on va le dire à l'Église. Donc il y a des cas où il faut vraiment, notamment dans le cadre de l'Église, de l'Assemblée, il faut utiliser la discipline et on ne peut pas laisser le péché grandir non plus dans l'Église. Mais on doit toujours être prêt à pardonner. On ne doit pas garder rancune. Voilà, c'est le contraire de la rancune. Si je suis quelqu'un de rancunier, j'aurai très peu d'exaucement à mes prières. Ça, c'est une promesse de Dieu. Hein. Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas non plus. La rancune ne fait pas partie de l'esprit de Dieu. Nous sommes pour la justice, nous sommes pour les bons rapports, pour la fraternité. Et si quelqu'un pêche contre cette fraternité, fait vraiment du mal, on doit s'en occuper, mais on doit toujours laisser la place au pardon. Dans la discipline, il doit toujours y avoir la place au pardon. Que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, on doit dire, écoute, ça c'est pas bon, voilà comment tu devrais faire. Si tu le fais, vraiment, tout se passera bien. Si tu ne le fais pas, ça va être un problème. Mais par exemple, si on punit un enfant sans lui dire pourquoi, ou sans lui dire comment il peut s'en sortir, on fait du mal. Voilà. Un enfant, on doit le corriger, lui dire non, c'est pas comme ça, c'est par là. Pardonner, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Et nous devons apprendre le pardon auprès du Seigneur Jésus, qui a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsqu'on est dans cette attitude d'humilité, de pardon, eh bien, ça change tout. En Marc 11, il est même dit, hein, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Hein, c'est très lié au Notre Père, là. Donc, si je prie et que j'ai de la rancune, ben, je ne dois pas m'attendre à être exaucé, je ne dois pas m'attendre à être pardonné moi-même. Si je viens au Seigneur en disant « Oh Seigneur, veuille me pardonner, veuille m'accepter, veuille exaucer mes prières, je suis ton enfant » et que par derrière on est impitoyable avec les autres et on est rancunier, le Seigneur le voit très bien et il n'exaucera pas notre prière. Il se fera blocage hein, parce que Dieu est contre l'orgueil. Par contre, Dieu fait grâce aux humbles. Et c'est à nous d'apprendre l'humilité et le pardon dans notre cœur, dans la prière. C'est extraordinaire les effets de la prière lorsqu'on prie pour son ennemi. Parfois, dans le monde, hein, il y a des gens qui nous attaquent et qui nous veulent du mal, que ce soit au travail ou ailleurs. Et Dieu nous appelle à prier, à bénir nos ennemis. Et les premiers mots sont difficiles, mais quand on commence à prier pour cette personne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a... Dans notre cœur, déjà, il y a une libération. Et ensuite, ça peut même toucher la personne, hein, elle-même. Et c'est pareil aussi entre frères et sœurs. Des fois, il y a des frictions entre nous. Et on doit apprendre à pardonner et à avancer, à s'aimer, à faire que l'amour prime sur la rancune. Dans le couple, c'est pareil. Dans un couple, il peut y avoir des frictions et tu n'as pas fait ci, t'as pas dit, tu m'as dit ça, et pourquoi, et comme ça. Et si on s'arrête sur ces choses... Ben, le couple ne va pas très loin. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui nous... On est deux différents, on a deux... Il y a un homme, une femme, un caractère et un autre caractère. On n'a pas toujours la même vision au même moment des choses. Mais il faut passer là-dessus, dire « Mais je t'aime et je veux m'unir à toi et on va faire les choses ensemble et on va avancer. » Et on ne va pas se laisser arrêter par des petites querelles ou des petites choses qui nous dérangent. Et c'est ça que Dieu nous demande, de compter sur lui pour notre pain et de pardonner et de demander pardon sincèrement avec une vraie repentance. Les réveils spirituels ont toujours commencé avec la repentance des chrétiens. Ce n'est pas la repentance des incroyants qui a commencé les réveils. Ça, c'était la suite. C'est lorsque les chrétiens se repentent que les incroyants sont touchés parce qu'ils disent « Waouh, c'est un chrétien et il a l'humilité ». De reconnaître qu'il est encore pécheur et qu'il n'est pas comme il faut. Et c'est vraiment bouleversant, quelqu'un qui est très humble et qui se repent comme ça. Et nous devons avoir vraiment cette attitude permanente, je dirais, de reconnaître que Dieu est le seul juste et que nous avons besoin de progresser et de lui demander pardon régulièrement et d'avancer dans la justice de Dieu. On va terminer par un mot de prière et puis on finira le cantique.